Bonjour, c'est Benjamin Muller. Ouh, je suis de bonne humeur, c'est vendredi. J'espère que vous aussi. C'est l'heure du podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, chaque jour on revient et on réécoute un extrait de l'émission du matin. Et ce matin, on a parlé d'un sujet qui est douloureux. Mais alors c'est vrai que vous êtes nombreuses à nous demander d'en parler, l'hyperémèse gravidique. Qu'est-ce que c'est que l'hyperémèse gravidique ? Vous vous souvenez peut-être que la princesse Kate Middleton en a souffert, ce qui avait un peu médiatisé la chose. Et bien c'est tout simplement quand on est malade du début à la fin de la grossesse. Vous savez, on parle souvent des petits, entre guillemets, je vais dire petits guillemets parce qu'il n'y a rien de petit, mais des petits maux de la grossesse qui durent 3 mois et qui s'arrêtent comme par magie au 3e mois. Et bien l'hyperémèse gravidique, et bien ça s'arrête jamais. On a envie de vomir pendant toute la grossesse, on perd du poids, c'est très dur, c'est très douloureux, notamment psychologiquement, comme vous pouvez vous en douter. On va donc écouter un témoignage, celui de Soumaya, et après on va commenter, parler de ce sujet qui est médicalement très fort, c'est important d'en parler, avec le docteur Iman Ben Barek. C'est parti pour le podcast des maternelles.
Bonjour Soumaya.
Bonjour.
Alors merci d'être là, parce que quand on sait la nuit que vous venez de passer... Bon, la petite est malade alors.
Tout à fait, il n'y a pas eu de nuit.
Il n'y a pas eu de nuit. Ayana, elle a fait tout pour réveiller sa maman, elle était hyper malade.
Elle savait que je venais ici pour parler de...
Mais c'est sympa d'être là, parce qu'on est en direct, on aurait été mal sans vous. Alors vous, pour tenir votre fille dans vos bras, vous avez traversé vraiment des moments, mais ultra difficiles. Vraiment, je peux même parler de détresse. C'est vraiment... Je pense que quand vous allez entendre le témoignage de Soumaya, vous allez halluciner. Vous avez été frappée par une forme grave de ce qu'on appelle l'hyperémèse gravidique. C'est une pathologie de grossesse qui cause des nausées et des vomissements. Mais alors, ce n'est pas les petites nausées qu'on connaît, c'est ultra violent. Et vous avez même failli renoncer à votre projet de maternité. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous n'aviez jamais entendu parler de cette maladie quand vous tombez enceinte en août 2017 précisément. Quand sont arrivés les premiers symptômes ? C'est-à-dire que vous faites le test de grossesse et après, qu'est-ce qui se passe ?
C'est arrivé crescendo. Le test de grossesse, je me souviens parce que c'était une date clé, c'était la veille de mon anniversaire, donc c'était assez cool. On a vu le test, on était très très heureux. Et à peine au bout de 2 semaines plus tard, les premières nausées sont arrivées et les vomissements incoercibles sont arrivés vraiment le lendemain. Donc
oui,
à partir de 6 semaines d'aménorrhée.
C'est d'ailleurs généralement là que les nausées arrivent, mais elles sont très très désagréables, mais c'est pas à ce point-là. Alors le problème de cette maladie, c'est que l'entourage comprend pas vraiment ce qui se passe. Les vomissements et les nausées, c'était de quelle intensité ? Qu'on comprenne bien à quel point c'était ?
C'est très bien ce que vous dites, Agathe, parce qu'en effet, c'est un sujet qui est un peu tabou et on est un petit peu... Mise de côté quand on parle de tout ça, parce que les nausées et vomissements, donc il y a les nausées et vomissements de grossesse classiques, que tout le monde peut vivre. Dans mon cas, c'était vraiment des vomissements incoercibles. C'est-à-dire que quand je comptais intérieurement le nombre de vomissements auxquels j'étais, on arrivait à 120, voire 150 par jour.
150 vomissements
par jour. Tout à fait. Et ce n'est pas un chiffre inventé, c'est vraiment 150 vomissements par jour qui sont spasmodiques. Au bout d'un moment, on vomit de la bile, du sang, et on commence à avoir des brûlures à l'œsophage et on se sent vraiment dépérir.
9 mois comme ça, c'est pas possible. Alors du coup, les nuits, comment vous faisiez ? Vous vomissiez aussi la nuit ?
Nuit et jour, exactement. Il n'y a pas de répit.
Est-ce qu'il y avait d'autres symptômes à part les vomissements ?
Tout à fait. Alors, vomissements, nausées, et c'est accompagné de la photosensibilité. C'est-à-dire que du coup, on est vraiment très sensible à la lumière du jour et tout type de lumière. Le fait d'avoir une hyperosmie, donc c'est-à-dire que d'avoir l'odorat qui est très très développé. Donc ça peut vraiment être à 10 mètres, quelqu'un qui se fait un café, on ne le supporte pas. On va aussi avoir, pour certaines femmes qui ont des formes graves comme ce que j'ai eu, donc en fait les dents qui vont commencer à bouger.
C'est à cause de la bile ?
Exactement. L'acidité des vomissements vont vraiment presque déchausser les dents. Et donc, je peux vous assurer que se retrouver à vomir du sang et avoir en plus toutes les dents qui bougent, alors qu'en fait, on est censé vivre le meilleur moment de sa vie.
Il y a l'hypersalivation aussi, vous avez
Exactement, tout à fait. Il y a l'hypersalivation où du coup, on peut arriver jusqu'à 1 litre par jour, ce qui est énorme. Donc, on se retrouve à vomir et malheureusement aussi à cracher sa salive pour essayer de ne pas vomir. Alors, ce n'est pas très glamour, mais malheureusement, il faut en parler parce que c'est ce que beaucoup de femmes vivent et c'est ce que j'ai vécu. Et j'aurais tellement voulu savoir ce que c'était avant de le vivre.
Oui, on a conscience que vous êtes sûrement au petit déjeuner, mais... déjà, si vous êtes enceinte, dites-vous, oh là là, en fait, quel bonheur, j'ai mes petites nausées, mais c'est rien par rapport à ça.
C'est ça.
Et puis surtout, c'est très important d'en parler, on ne le fait pas assez. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement, à quoi ressemblaient vos journées? Parce que ça devait être... Enfin, j'imagine que vous avez arrêté toute activité.
Tout à fait, c'est complètement atroce. On se retrouve alité soit dans le lit ou dans la salle de bain pour pouvoir vomir. Et on a quelques répits d'une quinzaine de minutes où généralement je ferme les yeux pour essayer de me reposer avant que ça reparte. Et puis ça dure nuit et jour, jusqu'au moment où forcément le corps commence à dire stop. En une dizaine de jours, j'avais perdu 15 kilos. Donc je suis arrivée de 60 en début de grossesse à 45 en seulement 10 jours. Et là, forcément, du coup, la photo en dit long, en effet. L'arrivée aux urgences se faisait plus qu'attendre.
Alors, vous avez évidemment testé les remèdes classiques. On en parle dans la maison des maternelles, l'huile essentielle de gingembre,
Exactement.
etc., toutes ces petites choses-là. Rien n'a fonctionné. Mais est-ce que vous arriviez quand même à manger un tout petit peu ou au moins à boire?
Malheureusement, non. Manger, c'est niette. Et quant à boire, écoutez, pour vous imager tout ça, c'était mon cher mari qui me mettait des petites gouttes dans le bouchon de la bouteille pour m'humecter les lèvres, pour me dire il faut absolument que tu bois au moins une goutte aujourd'hui parce que tu es vraiment déshydraté. Donc non, malheureusement, boire fait également vomir et nous met dans un état en plus spasmodique de vomissement. Donc on se retrouve un peu entre, arrivé un moment même entre la vie et la mort, à se dire il faut que j'arrête de vomir parce que je sens que vraiment c'est soit moi ou le bébé.
Vous avez été hospitalisée deux fois.
Tout à fait.
Aussi parce que vous perdiez du sang.
Exactement.
C'était
les conséquences tout à fait des vomissements. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand on est dans des formes graves comme ça de l'hyper-MS gravidique, les vomissements sont tellement spasmodiques que ça agit sur le diaphragme et ça peut créer des décollements du placenta. Donc je suis arrivée aux urgences. C'est encore une fois malheureusement très peu connu. Les urgences et même les gens ne sont pas formés à voir ça. Et il y a eu des scènes vraiment qui n'étaient pas très agréables et qui sont dans un coin de ma tête que j'ai envie d'oublier, où mon mari appelait un petit peu tout le monde à leur demander de s'occuper de moi, et j'étais en train de gire avec un jean plein de sang parce que je me demandais si je faisais pas une fausse couche, et j'essayais de tenir ma tête de l'autre côté, et j'ai attendu comme ça 2-3 heures aux urgences parce qu'ils savaient pas ce que c'était.
C'est pour ça que c'est très important d'en parler de plus en plus, c'est parce que même le corps médical est totalement démuni face à ça. Vous étiez, j'imagine, à bout de force, est-ce que vous arriviez quand même à parler? On a du mal à imaginer dans quel état vous étiez.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer un état cadavérique où on est en train de gire sur le sol. Je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est un peu un rire nerveux parce que les souvenirs ne sont vraiment pas agréables à retracer. Et on ne peut pas parler parce que généralement on vomit, on a de l'hypersalivation. Donc dans mon cas, j'écrivais quelques mots et quelques lettres sur un petit papier que mon mari me donnait pour lui dire c'est chaotique, là je perds trop de sang, là il faut aller aux urgences. Voilà.
Alors, vous avez fait un deuxième séjour à l'hôpital. Là, les traitements antivomitifs ont semblé faire un tout petit peu d'effet. Donc, vous avez eu une accalmie, je dirais, pendant 2 semaines. Tout a basculé. Vous avez fait... c'était l'écho du premier trimestre, c'est ça ?
Exactement. Tout a basculé. L'accalmie dont vous parlez très bien, Agathe, c'est en fait une accalmie qui était due au fait que le cœur du bébé s'était arrêté. Lors de l'échographie du premier trimestre, mon mari s'est préparé et m'a préparé pour y aller. C'était la première fois qu'on faisait une sortie, entre guillemets, pour se dire de voir quelque chose de positif et de voir son petit bout qui grandit. Et c'était aussi la cause de tout ça, et vraiment une belle cause. Et au final, lors de l'échographie, le gynécologue nous a dit ça fait 3 semaines que votre bébé est mort dans votre ventre. Et on a tout de suite fait le rapprochement avec le moment où...
C'est pour ça que ça allait mieux.
Exactement.
C'est horrible. Bon, épreuve évidemment horrible, vous avez repris du poids, vous avez repris du poil de la bête, même si évidemment psychologiquement j'imagine que vous étiez à terre. Vous êtes beaucoup renseigné sur cette maladie, donc très peu connue, et vous avez trouvé qu'à New York, il y avait peut-être une solution si vous vouliez revenir à votre projet de bébé.
Tout à fait. En fait, c'est vrai que je me suis retapée, mais ça a été assez lourd, parce qu'il faut se retaper psychologiquement, mais aussi physiquement. Il faut savoir que vraiment tous les muscles, on perd tous les muscles sont atrophiés, donc c'est presque une vraie rééducation à faire. On est parti en vacances pour essayer d'oublier tout ça. Malheureusement, il y a eu une fausse couche dans l'avion, alors qu'on était censé oublier un petit peu ce passage d'hyper-MS gravidique. Et ça a été un petit peu le coup de grâce qui nous a dit « Bon, maintenant, on va arrêter avec la France », parce que du coup, on essaye d'appeler à l'aide un peu partout. On a appelé des gynécologues, etc. Et on a beaucoup qui nous ont dit « On ne sait pas ce que c'est. Non, mais vomir, c'est normal.
» Alors, à New York, elle vous a donné des médicaments précis ?
Tout à fait. Donc, on a trouvé une gynécologue femme qui fait partie notamment de l'association de l'AG, donc l'équivalent de l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique, mais donc aux États-Unis, qui est listée là-bas et qui connaissait très bien. Et c'était un bonheur, mais incroyable d'arriver, d'avoir quelqu'un qui vous comprend.
Enfin.
Exactement. Une oreille. oreille, une écoute, être compris, ne pas avoir à détailler vraiment tout ce qu'on vit pour que la personne comprenne ce qui se passe. Et à ce moment-là, de toute façon, s'il aurait fallu vendre la maison pour avoir un bébé, on l'aurait fait. Parce qu'il faut savoir que là-bas, les médicaments ne sont pas donnés. Et du coup, elle nous a fait tout un protocole en fait, pour 3 mois. Donc on a acheté les médicaments et on est revenu valise chargée, armée comme pour aller à la guerre, pour essayer d'avoir notre bébé.
Alors vous êtes tombée enceinte et comment s'est passée la grossesse? Est-ce que c'était quand même mieux que la première fois?
Alors c'était mieux, mais comme je dis souvent, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Dans le sens où c'était mieux, mais de ma vision. Je ne vomissais plus qu'une 30aine de fois par jour et j'ai été alitée sans être hospitalisée. Pour beaucoup,
vous arriviez quand même à manger de temps en temps. Et c'était
des petites croûtes de pain.
Voilà. Bon, voilà. Ma peau. Et alors, est-ce que les symptômes se sont arrêtés net à la naissance d'Ayana?
Oui, les symptômes se sont arrêtés, même si pour beaucoup de femmes dont je fais partie, il y a des moments où en fait les symptômes peuvent un peu revenir. En fait, on a des nausées ou des envies de vomir qui arrivent, et il y a un petit pourcentage de femmes qui ont vécu ça, qui n'avaient pas du tout ça avant. Enfin, j'avais pas ça avant. Et c'est vrai que depuis que j'ai vécu l'AG, malheureusement, ouais, il y a des moments où avec un coup de fatigue ou autre, on a de nouveau un petit peu cet état. Light, bien évidemment, mais qui revient.
Oui, puis j'imagine que le corps, surtout la tête, se souvient.
C'est ça, il y a une mémoire du corps, tout à fait.
Violent.
Tout à fait.
Est-ce que vous arrivez à envisager un jour une autre grossesse? Franchement, à votre place...
C'est compliqué.
Il faut être vraiment avoir ça dans le sang.
C'est ça,
il
faut avoir ça dans le sang, il faut avoir l'envie, l'envie est là. Lundi, je vous dirai oui, mardi, je vous dis absolument pas. Mercredi, je vous dirai je reprendrai un gros traitement, et puis jeudi, je vous dirai je fais une ligature des trompes. Oui. C'est fort ce que je dis, mais c'est vrai, parce qu'au final, c'est toute une organisation. Il faut savoir aussi que revivre ça, ça serait aussi mettre un petit peu sa vie, entre parenthèses, la vie professionnelle, la vie personnelle. Il y a la petite maintenant qui compte sur moi, qui a bientôt 3 ans. Oui. Donc en fait, il y a tout un tas de choses à prendre en compte qui est délicat. Donc à ce jour, j'ai envie de vous dire que c'est un gros point d'interrogation, malheureusement, même si l'envie est là.
Docteur Imane Benbarek, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital Beaujon à Clichy. Bon, on l'a vu, Soumaya, elle a eu une forme ultra extrême et violente d'hyperémèse gravidique jusqu'à la fin de sa grossesse, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement. Est-ce que c'est le cas de toutes les femmes qui souffrent de cette pathologie? Est-ce que c'est vraiment jusqu'au bout des bouts des bouts des bouts?
Heureusement, on va dire non. Mais les nausées et vomissements de la grossesse, ça représente quand même la majorité des femmes. On parle de 80-90% des femmes. Après, il y a des formes variables. Ça peut aller juste de la nausée, le petit vomissement matinal, à des femmes qui vont vomir plusieurs fois par jour. Et puis après, il y a le cas extrême qui est l'hyperémésis gravidique. C'est 1 à 2% des grossesses. Ça va être des femmes qui vont perdre du poids significativement, qui vont avoir du mal à s'alimenter, qui vont avoir des carences qu'on va mettre en évidence en faisant des prises de sang. Donc un bilan qui va être perturbé et qu'on va probablement hospitaliser pour les aider à passer ce cap. Donc ça reste quand même... La majorité vont quand même s'améliorer après 20 semaines, que ce soit juste les nausées, vomissements ou même l'hyperémésis gravidique. Et puis dans des rares cas, comme celui de Soumaya, elles peuvent... Ça reste rare, heureusement. Après, les femmes qui vomissent au début de la grossesse, après 20 semaines, elles vont s'améliorer, mais elles restent quand même nauséeuses, mais elles reprennent une vie, on va dire, normale, où elles arrivent à s'alimenter quand même correctement. Mais pas à ce point-là.
Alors, on a une question de Rania, justement. Pour revenir sur l'histoire de Soumaya, à chaque hospitalisation, visiblement, on a insinué que ce serait peut-être psychologique. C'est normal, ça?
Non. C'est vrai que...
C'est terrible pour elle, quoi.
Oui, c'est quelque chose qu'on n'entend plus. Dans des vieux papiers, il y a cette croyance un peu ancienne...
Le corps réagit au fait qu'on, en fait, inconsciemment, on n'a pas envie de cet enfant, quoi.
On
ne
veut
fait,
pas
en
cet
gros.
Enfant, donc... Donc ça reste une des causes qui a été décrite, mais qui ne s'entend absolument pas.
Ultra culpabilisante.
Absolument. Ça a toujours été débattu et maintenant on est nombreux à ne pas du tout le prendre en compte. Par contre, c'est des patientes à qui on propose quand même un soutien psychologique parce qu'elles vivent une période très difficile. Soumaya, c'est un exemple, peut-être un des pires, mais... La majorité des femmes qui vomissent, elles sont quand même pas bien au premier trimestre parce qu'elles sont isolées, parce que au premier trimestre, on ne le dit pas forcément à tout le monde qu'on est enceinte, qu'elles n'ont pas forcément un soutien à la fois du corps médical, je l'avoue, mais aussi du personnel, parce que c'est des familles, des fois, de vomisseuses, et autour d'elles, on leur dit...
Vomisseuses, vous dites.
Enfin,
Oui.
C'est des... souvent, c'est la mère a vomi, la sœur a vomi, ouais. Donc elle rentre chez elle et on leur dit, ben, on est tous passés par là, il faut serrer les dents, ça va passer. Donc c'est un discours qui ne s'entend plus et ces patientes-là, on leur propose un soutien pour qu'elles aient une oreille attentive, qu'elles passent ce cap un peu difficile et qu'elles vivent un peu plus sereinement cette grossesse.
Pendant le témoignage, vous nous avez dit, j'ai le mauvais rôle, parce que c'est vrai qu'on pointe un peu du doigt les médecins. Les choses évoluent quand même dans le bon sens, vous dites, c'est de plus en plus pris en compte. Parce que vous parliez des vieux papiers qui disent c'est psychologique, vieux papiers, vieux médecins, on peut aussi dire, l'ancienne génération de gynéco.
Non, il y a toujours eu des gynécos de tout genre, mais non, c'est disons que les choses évoluent parce qu'on prend peut-être plus en compte l'aspect psychologique de la chose, le soutien psychologique des patientes, les sociétés savantes évoluent aussi. D'ailleurs, bientôt, on attend les futures recommandations qui doivent sortir à la fin de l'année. Donc, ils vont sortir des recommandations de prise en charge qui vont redéfinir aussi qu'est-ce qu'une hyperémésis gravidique, qu'est-ce que les nausées et vomissements, et ce, de manière nationale.
Pour qu'on ne dise plus jamais à une future maman, c'est dans ta tête. Une question envoyée par Louise pour vous.
Bonjour tout le monde, alors voilà ma question. Y a-t-il une explication médicale qui pourrait expliquer qu'une femme enceinte vomisse du premier jusqu'au dernier jour pendant 9 mois? Parce que c'est ce qui m'est arrivé, j'ai vomi du premier jusqu'au dernier jour, jusque sur la table d'accouchement, parfois 10 à 15 fois par jour, pendant 9 mois. Voilà, merci beaucoup.
Et voilà, encore un cas extrême. Comment ça s'explique médicalement?
Il y a des petites pistes, on sait qu'il y a des facteurs de risque qui prédisposent à avoir des nausées ou un hyperémésis gravidique. Souvent, c'est des patientes qui ont un faible indice de masse corporelle, des patientes qui vont avoir des grossesses multiples, des jumeaux, des triplés, qu'on voit de plus en plus avec la PMA qui évolue un peu plus. C'est des patientes aussi qui ont, c'est ce que je disais, des familles
qui est héréditaire.
Dans la famille, ils ont leurs sœurs, leurs mères ont vomi. Et malheureusement, quand elles ont vomi la première fois, elles vont revomir sur leur prochaine grossesse.
On commence avec la question de Luna qui dit « J'ai fait une fausse couche lors de ma première grossesse, j'étais vraiment très malade à ce moment-là. Les spasmes et les vomissements peuvent-ils en être la cause ?»
Ouais, c'est une question qui revient souvent. Malheureusement, on ne pourra jamais répondre de manière formelle à cette question. Parce que les fausses couches, ça reste quand même quelque chose d'assez fréquent. Une grossesse sur 4, sur 5 s'arrête pour des raisons essentiellement génétiques. Les patientes qui vomissent, pour certaines, de manière un peu plus rare, mais elles peuvent développer une des causes peut être un problème de thyroïde, une hyperthyroïdie. Et donc l'hyperthyroïdie, la thyroïde, quand elle n'est pas réglée, peut donner des fausses couches. Alors oui, si la cause de les vomissements était l'hyperthyroïdie, peut-être qu'elle aurait pu donner une fausse couche, mais malheureusement.
D'accord, mais c'est pas le vomissement en tant que tel, même répété, qui est cause de fausse couche.
Pas à ce point, à moins si on parle dans une situation où il y a énormément de carences, où il y a c'est des situations qui restent vraiment exceptionnelles. Mais encore une fois, au premier trimestre, ce sera toujours dur de faire la part des choses entre une fausse couche juste parce que la grossesse s'est arrêtée pour une cause génétique et autre.
Une question de Christina, qui semble souffrir d'hyperémèse gravidique. Elle me dit « Je suis à 37 semaines d'aménorrhée et je vomis encore. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'accoucher. Ouais. Est-ce qu'on peut programmer l'accouchement avant le terme ?»
Franchement, dans ces cas aussi extrêmes...
Ça fait toujours débat et c'est toujours sujet... on en discute au staff. Je ne peux pas m'engager au nom de toutes les maternités, mais...
Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
En tout cas, à Beaujon, c'est déjà arrivé que la situation se pose. Là, souvent, c'est une demande qui vient de la patiente, parce qu'en effet, on objective qu'elle vomit, qu'elle est hospitalisée pour vomissement régulièrement, qu'on a fait le tour de la question, qu'on ne sait pas pourquoi. Enfin, qu'il n'y a pas de cause médicale autre que la grossesse à ces vomissements. Et en effet, chez ces patientes, on peut proposer une maturation 2 semaines avant le terme, autour de 39 semaines, pour les soulager.
Oui, et en plus, j'imagine qu'une maman qui vomit, c'est une maman qui ne se nourrit pas très bien. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux de faire sortir le bébé ?
Malheureusement, le bébé, lui, ça sert. C'est maman qui empathie. Oui. Mais en effet, quand il y a trop de carences, il peut en pâtir aussi. Mais c'est plutôt la mère, en fait, qui est plus en danger. Mais en tout cas, elle est en souffrance totale. Et on est là pour répondre quand même à cette souffrance.
Arnaud, vous devez en voir, vous, des bébés avec leur maman, les mamans qui vous racontent avoir vécu des grossesses comme ça. Et est-ce que les bébés, psychologiquement, et les mamans, est-ce que vous constatez Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire d'accompagnement pour ces bébés qui ont eu ces grossesses particulières?
Très bonne question, Benjamin.
Oui. Et on est de plus en plus associés. Enfin, moi, qui suis néonatologiste, qui intervient en maternité, au staff, on en parle, parce qu'il faut voir aussi la maturation du bébé, comment s'est passée la grossesse, sa taille, son poids estimé. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte.
Et pour le lien entre la mère et le bébé dans ce genre de grossesse?
On a ce lien d'attachement, parce qu'on a des progrès considérables qui ont été faits avec les neurotransmetteurs, l'ocytocine, etc. On fait tout pour en parler en amont. Alors, il y a des cas où le pédiatre se montre déjà dans ces cas-là. On va rassurer la maman en lui disant, écoutez, voilà, c'est pour votre bien, parce que, comme le disait Agathe avant, bah, la maman ne se sent pas bien. Il faut prendre en compte son état de mal-être, parce qu'il va avoir un impact aussi sur l'enfant. On peut aussi avoir un accouchement qui ne va pas bien se passer. On peut avoir des choses qui partent en vrille, comme on dit. Donc oui, on fait un travail en amont, c'est collégial. Nous, on en parle avec la maman, les sages-femmes font un travail remarquable. Et puis derrière, très vite, on fait tout pour que l'enfant ne soit surtout pas séparé de sa maman. Ça, c'est essentiel.
Alors tout à l'heure, vous disiez que quand on a des vomissements sur la première grossesse, on en a sur la deuxième. La Darlène vous demande, est-ce qu'il est possible que lors de la première, il n'y en ait pas eu, mais qu'il y en ait sur la seconde?
Chaque grossesse est unique, hein. Même si un des facteurs de risque de vomissement, c'est d'avoir vomi avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on va revomir et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revomir. Donc,
concrètement, on est face à une téléspectatrice qui a les boules si ça lui arrive pour la prochaine grossesse.
Par contre, ouais. Après, le mot d'ordre, c'est se plaindre, c'est le dire. Enfin, quand on se rend compte que la majorité des patientes, quand on les voit arriver aux urgences, ben, quand on leur demande est-ce qu'elles ont pris un traitement, est-ce qu'elles ont consulté pour ça, la majorité n'ont pas consulté parce qu'elles considèrent que c'est encore normal. Elles s'auto-censurent et dit c'est normal de vomir, on est au premier trimestre de la grossesse. Il faut le dire dès le départ qu'on vomit, il faut le dire que ce vomissement nous gêne au quotidien et à nous aussi professionnels de tout de suite donner le traitement qu'il faut. Alors ça marche ou ça marche pas, mais au moins ça peut améliorer significativement, ça ne va peut-être pas supprimer les vomissements, mais au moins retrouver une vie normale, quoi.
Justement, c'est le traitement. Il y a beaucoup de questions, par exemple Janice, mais il y en a plein qui vous demandent c'est quoi le traitement, comment on fait?
Les traitements, alors... on est un peu démunis, mais globalement, c'est déjà revoir les règles hygiénétiques, revoir comment on mange, tout redéfinir. Il ne faut pas manger trois fois par jour, il faut manger ce qu'on veut, quand on veut, de manière très fractionnée, à très petite dose. Après, on conseille de quand même limiter tout ce qui va être très gras, parce que ça va alourdir encore plus l'estomac et donner encore plus de nausées. Mais il y a quand même des patientes qui ont envie de manger des donuts, et ben elles mangent leurs donuts, elles mangent leur pain au chocolat, enfin, elles mangent ce qu'elles veulent, quand elles veulent.
Dans l'idéal, donc, on mange sainement toutes les 2 heures, voilà, toutes les 2-3 heures.
Des toutes petites quantités. Après, quand ça ne marche pas, on peut proposer d'autres choses. On peut proposer du gingembre à des doses un peu plus fortes, en comprimé. Si elles n'arrivent pas à avaler des comprimés, parce que ça arrive aussi, ben, elles peuvent manger du gingembre confit, enfin, des choses riches en gingembre. On peut proposer des traitements anti-vomissement. Il y a plein de molécules, du Donormil, du Cariban, du Primperan, enfin, on propose tout. Et à côté de ça, on fait autre chose, on fait de la sophro, on fait de l'acupuncture, de l'hypnose, on essaye tout, mais on lâche rien, on essaye. Et après, on espère qu'à 20 semaines, ça s'aménuise, ça disparaisse. Et voilà.
Soumaya parlait d'un médicament américain qui n'existe pas en France. Il est débattu.
Je ne sais pas. J'ai pas la molécule en tête. Okay. Enfin, en tout cas,
c'est la molécule B12276.
Oui, Benjamin, c'est celle-là. Okay. American. Ouais. Le sait bien.
Okay. On va attendre les recos.
D'accord, très bien. Attendons un peu.
Une question de la part d'un conjoint. Ma femme souffre d'hyper-MS gravidique. C'est très dur pour elle et pour l'entourage qui se sent impuissant. On l'a vu avec Soumaya tout à l'heure. Un soutien psychologique est-il conseillé des deux côtés? Je ne sais plus comment l'aider.
C'est déjà... courageux de sa part de prendre ce témoignage. La soutenir elle, lui dire qu'il est là et de lui apporter, s'il a envie de fraises, de sortir aller chercher les fraises, d'accompagner et de dire qu'il comprend cette situation et qu'il ne banalise pas le fait qu'elle vomisse. Mmh. Il est quand même co-responsable de cet état.
C'est la faute du père.
Après, oui, le soutien psychologique, bien sûr, pour la patiente, mais aussi pour l'entourage, s'ils sont démunis, avoir une oreille attentive, professionnelle, c'est toujours un support en plus. Et bien sûr, encore une fois, demander de l'aide, ne pas rester tout seul.
Merci beaucoup au docteur Iman Ben Mbarek et merci à Soumaya d'être venue raconter cette grossesse si douloureuse. Voilà, c'est la fin du podcast des maternelles du vendredi. N'hésitez pas à réécouter les épisodes que vous aurez pu manquer de la semaine, ce week-end. Vraiment, n'hésitez pas. Le temps pour moi de remercier toutes celles et ceux qui permettent à ce podcast de voir le jour en quotidienne. Toutes les équipes de France Télévisions auprès d'Aurélie Taguet, toutes les équipes de 2P2L auprès de Jérôme Caza. Merci à Jérémy Normand et à toutes celles et ceux qui organisent ce podcast. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes un bon week-end. On se retrouve lundi, n'oubliez pas, 9h25 sur France 2. Ciao tout le monde.